Bien, alors je ne sais pas si le fait d'avoir une longue expérience est un compliment, mais il n'en reste pas moins que je suis un peu comme Bernard, je suis quand même profane sur les questions, donc je me garderai bien d'entrer dans des choses trop pointues là-dessus. Alors je commencerai par remarquer ces souvenirs de mes dernières lectures. Alors il est difficile de dire si les artistes, comme ils le prétendent parfois, ont entre autres dons celui de mieux percevoir que le commun des mortels ce qui change. Mais s'agissant du thème de notre colloque, j'avais été frappé il y a quelques années par le fait que John le Carré, connu jusque-là pour ses excellents livres sur l'espionnage au temps de la guerre froide, avait choisi pour trame de son roman La Constance du jardinier le thème de l'industrie pharmaceutique, de ses tests des médicaments en Afrique et de ses turpitudes parfois dramatiques que Bernard a déjà évoquées. Je n'ai d'ailleurs pas été autrement surpris quand son compatriote William Boyd a choisi le même type d'intrigue dans son tout récent Orages ordinaires. Je ne fais pas de la publicité pour ces livres, mais c'est intéressant de voir le regard que peut jeter un créateur sur ces questions. Dans ce roman aussi, on séquestre, on tue, on maquille les résultats des tests pour ne pas entraver la mise sur le marché d'une nouvelle molécule et bien sûr les profits que l'industrie pharmaceutique en espère. Mais la fiction n'est évidemment pas la réalité. Je me garderai donc bien de tirer une conclusion définitive de ces lectures, mais je note simplement que l'industrie pharmaceutique est donc une source d'inspiration pour quelques-uns des grands auteurs de notre temps. Alors pour en venir à ce colloque, et plus prosaïquement, je me propose donc de faire un bref état des lieux sur une des questions qui commande la fabrication et la commercialisation des médicaments, à savoir celle des brevets. Alors une première remarque s'impose ici. Si le libéralisme économique retient comme une sorte de dogme quasi théologique le développement du libre-échange, il n'en montre pas moins beaucoup d'imagination pour défendre les privilèges accumulés au cours de l'histoire récente par les économies dominantes, qui sont par définition celles des pays eux-mêmes dominants. En clair, elles ne sont pas prêtes au nom de l'ouverture des marchés à abandonner les positions gagnées dans le passé par leurs entreprises, et à cet effet, les brevets et les institutions chargées de les administrer jouent un rôle tout à fait central. Donc, un premier point, c'est quelques éléments de l'histoire des brevets. Ensuite, quelques mots sur ce que je perçois comme une double évolution intervenue au cours de ces dernières décennies, à savoir le fait que les médicaments sont devenus produits brevetables, ce qu'ils n'ont pas été au cours d'une longue période historique. Et deuxième évolution, l'entrée en scène assez brutale de l'Organisation mondiale du commerce, qui depuis une quinzaine d'années a introduit de nouvelles règles dont je dirais un mot. Preuve supplémentaire d'un fait bien connu, les textes sont une chose et leur application concrète en est une autre, donc je donnerai aussi, ce sera une note d'espoir pour la fin, quelques mots des conflits autour de ces questions et la manière dont ils ont été plus ou moins réglés. Alors sur les brevets, sans entrer dans les détails, on peut remonter, il y a des auteurs qui remontent très loin dans l'histoire pour montrer, pour trouver trace de l'idée de protéger une invention, et bien sûr, en protégeant l'invention, on protège les intérêts bien compris de l'inventeur. Mais c'est seulement à la fin du XVIIIe siècle, au début de la révolution industrielle, et aussi des révolutions politiques, la révolution française et américaine, que des dispositions générales ont été prises dans les pays qui étaient alors les pays développés, même si on ne les appelait pas encore ainsi. L'objectif était partout le même, quand on regarde les textes, c'est favoriser le développement technologique et industriel par un mécanisme censé concilier intérêt général de la société, qui gagne selon ces concepteurs, qui a tout à gagner au développement économique, et aussi intérêt particulier de l'inventeur, ou plus fréquemment, d'ailleurs, non pas de la personne qui invente, mais de l'entreprise où l'invention a vu le jour. Donc, intérêt général, dans la mesure où celui qui dépose un brevet a l'obligation de divulguer le procédé de fabrication ou le produit qu'il veut breveter. Donc, c'est aussi un outil pour développer les connaissances et faire circuler l'information. Intérêt particulier qui n'est pas oublié, car cette divulgation a pour contrepartie des droits spécifiques, comme l'interdiction de copier le produit pendant un certain délai, une vingtaine d'années souvent, un peu plus parfois, ou l'obligation de verser des royalties aux détenteurs du brevet pour toute personne qui souhaiterait fabriquer le produit breveté. On pensait ainsi, et je laisse aux historiens le soin de trancher, on pensait ainsi promouvoir la recherche en permettant aux inventeurs d'être rétribués. Et aussi l'innovation, car les industriels peuvent ainsi espérer récupérer, je mets le mot entre guillemets, leurs investissements en recherche et développement. À l'origine d'ailleurs, autre point d'information, les systèmes des brevets étaient nationaux, ce qui contraignait les inventeurs à déposer des demandes dans chacun des pays où ils souhaitaient que leur invention soit brevetée, même s'il y avait très tôt, au cours du 19e siècle, des conventions internationales qui essayaient de coordonner un peu les différents systèmes de brevets. Mais puisqu'on parlait d'Europe, ce n'est que très récemment, par rapport à cette période de deux siècles, que s'est développé un système du brevet européen, avec un office européen du brevet, donc qui permet en principe à un inventeur de déposer une seule demande, mais avec des contraintes quand même très fortes, parce qu'il faut les traduire dans toutes les langues, et quand tu as un dépôt de brevet, souvent c'est un ouvrage de 20 ou 30, enfin c'est 20 ou 30 pages au bas mot, ça représente quand même un certain nombre de contraintes. Mais en tout cas, c'est un peu moins compliqué qu'avant, où il fallait, enfin en tout cas en Europe, où il fallait déposer des brevets dans chacun des pays. Alors, donc, pour notre réflexion ici, je suis pas un historien de ces choses-là, donc je voudrais simplement essayer de développer deux questions qui me paraissent importantes par rapport à notre colloque. C'est un, qu'en est-il des médicaments ? Autrement dit, sont-ils des inventions comme les autres, relevant donc de la législation sur les brevets? Et deuxième question, le fait de pouvoir breveter une invention est-elle un droit général pour l'inventeur ou seulement une possibilité? En d'autres mots, l'instance compétente pour délivrer les brevets est-elle contrainte de le faire, dès lors que la demande est faite, ou quelle que soit la nature de l'invention ou de la découverte, ou a-t-elle un pouvoir un peu différent? Cette question n'est pas simplement théorique, quand on sait par exemple que aux États-Unis, mais sans doute pas seulement là, des demandes de brevets ont été déposées par des citoyens américains pour la découverte, je mets le mot entre guillemets, de plantes en Amérique du Sud, plantes servant par exemple de médicaments aux populations d'origine. Ce qui a été considéré dans les pays concernés, à mon avis à juste titre, comme des actes de biopiraterie, c'est un néologisme qui a été inventé à ce moment-là, les paysans locaux, théoriquement, se seraient trouvés, si ça avait été jusqu'au bout, contraints de payer des royalties à des citoyens américains pour continuer à utiliser ou à cultiver des plantes qui faisaient partie de leur patrimoine botanique depuis des siècles. Voilà, donc, deuxième point, une double inflexion récente. Alors, la réponse à la première question, est-ce que les médicaments sont brevetables ou non, a varié au cours du temps, en France au moins, en fonction aussi des rapports de force politique et très certainement du poids de l'industrie pharmaceutique et de ses lobbies. En clair, les premiers textes français, ceux de 1791, pour reprendre le langage de l'époque, qui est toujours compréhensible, fixer le statut relatif aux découvertes utiles et aux moyens d'en assurer la propriété aux inventeurs, ces textes-là ne parlaient guère des médicaments. Ils ne les écartaient pas non plus. En revanche, en 1844, la loi est formelle, elle pose clairement le principe de non-brevetabilité non-brevetabilité du médicament. Ils ne sont pas susceptibles d'être brevetés, les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toutes espèces. C'est une citation de cette loi de 1844. Cette interdiction a duré un siècle, en fait. Et c'est une loi de janvier 44. Alors, je ne sais pas s'il faut faire le rapprochement avec Pétain, mais en tout cas, c'est une loi de l'État français, donc, mais qui a tout de même été validée après. Elle autorise les brevets sur les procédés pharmaceutiques, mais non pas sur les remèdes eux-mêmes. Hein. C'est seulement en 1959 qu'on voit apparaître, grâce aux ordonnances que les spécialistes de la santé, dont vous faites partie beaucoup ici, se souviennent bien des ordonnances relatives à la sécurité sociale et à d'autres questions de santé. Donc c'est par une ordonnance qu'a été créé un brevet de médicaments, donc un type particulier de brevet. Alors, et l'exposé des motifs de l'ordonnance justifiait cela par le fait que, je cite, le médicament ne peut pas être assimilé à tous les produits de l'industrie. Sa protection, sa qualité, son prix intéressent étroitement la santé publique. C'est seulement en janvier 68 qu'il y a une nouvelle loi, et cette fois, les préoccupations qui étaient si fortement exprimées 9 ans plus tôt ont disparu, et le médicament est entré dans le droit commun des brevets. Donc c'est un premier tournant sur cette question. Le deuxième tournant allait intervenir avec la signature du traité de Marrakech en 1994. Alors toujours, excusez-moi pour si je donne quelques précisions, ce traité concluait un cycle de négociations commerciales extrêmement long, pour ceux qui s'en souviennent, le cycle dit de l'Uruguay, et a abouti à la création de l'Organisation mondiale du commerce. Mais contrairement à ce qui se passait avant, où le seul accord commercial international concernait le commerce des marchandises, le GATT, là, il y avait deux nouveautés. L'une relative au commerce des services, la GCS, pour ceux qui se sont battus contre ces trucs-là, qui a un rapport avec notre thème ici, d'ailleurs, parce que il y a les services publics de santé qui peuvent être touchés par ça. Et surtout, alors, le nom barbare, un accord sur les aspects du droit de propriété intellectuelle lié au commerce, l'ADPIC. L'ADPIC, donc, c'est un accord qui fait partie, au même titre que les autres, des accords de l'OMC. Alors, cet accord fait d'abord obligation aux membres, donc c'est là qu'est le retournement, elle fait obligation aux membres de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire presque tous les pays du monde aujourd'hui, d'accorder des brevets, sauf en cas de situation d'urgence. J'en dirai un mot dans un instant. Bon, certes, les pays les moins avancés, pour reprendre le langage onusien, bénéficiaient de délais pour se doter des infrastructures, parce que si on oblige les pays à breveter, il faut aussi qu'ils aient des procédures internes, réglementaires, pour accorder les brevets. Mais il n'en reste pas moins que malgré cela, il y a bien un renversement dans la mesure où dorénavant le système international surplombe les systèmes nationaux de brevets, contrairement à ce qui se passait avant, où il y avait certes des conventions qui régulaient le tout, mais quand même où chacun restait maître chez soi. Alors vous allez me dire, mais les pays individuellement ne sont pas obligés d'accepter ça. Si, parce que une des perfidies des accords de Marrakech, c'est que tous ces textes que j'ai cités et un certain nombre d'autres forment un tout. C'est-à-dire, c'est pas un truc à la carte. Autrement dit, si un pays signataire, sans être dans une situation d'urgence, ne respecte pas ce qui est prévu dans l'accord sur la propriété individuelle, il risque d'être, l'OMC ayant un tribunal interne, l'organe de règlement des différends, il risque d'être condamné, enfin d'être soumis à des sanctions commerciales. Rappelez-vous l'exemple de sanctions commerciales, quand la France a refusé d'importer du bœuf aux hormones américains. Les États-Unis ont été très légalement autorisés à doubler pratiquement les droits de douane sur le Roquefort, José Bové, au motif que, enfin au motif qu'il s'agissait d'une décision de l'Organisation mondiale du commerce et donc d'une sanction légale en quelque sorte. Voilà, alors si on résume, ça veut dire que les pays en développement qui jusqu'à cette époque-là, à commencer par l'Inde, l'Algérie, pour les pays dont on parle souvent en France, qui ne brevetaient pas les médicaments. Dorénavant, enfin, s'ils sont membres de l'Organisation mondiale du commerce, ils ne peuvent plus s'en dispenser, ils sont tenus de le faire. Cette obligation ne concerne pas seulement la protection des produits et des procédés pharmaceutiques, mais elle inclut l'obligation de prévoir des sanctions pénales pour qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle, c'est-à-dire, dans notre cas précis, copierait un médicament. Jusqu'alors, ces pays autorisaient en quelque sorte légalement la copie de médicaments. Maintenant, ils ne peuvent plus le faire, pour le dire crûment. Avant, on ne s'en souciait pas trop, parce que les marchés potentiels dans ces pays étaient très réduits du fait de leur situation générale de pauvreté. Mais au cours des dernières années, cela a changé. Ce qui me conduit à une dernière remarque sur ce sujet qui va plus au fond des enjeux économiques sous-jacents. La philosophie qui déterminait l'ancien système des brevets, en tout cas à en croire les textes, mettait au premier plan, en théorie, le développement des sciences et des techniques supposées nécessaires au développement économique, lui-même, dans l'esprit de l'époque, nécessaire au bien-être des sociétés, même si, bien entendu, les considérations de rentabilisation des investissements dans la recherche étaient présentes elles aussi. Avec l'OMC, tout change. La logique est dorénavant celle de la libéralisation du commerce mondial, présentée de façon dogmatique et contre toute évidence comme la clé du développement économique. Ce qui compte donc avant tout dans la PIC, comme dans les autres accords de l'OMC, c'est comme le précise l'exposé des motifs de cet accord, je cite encore, c'est de réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international, en tenant compte de la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle. Donc, c'est un renversement de philosophie. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ce sera le dernier point. Combien il me reste? 5 minutes? Non? 3 minutes? Non. Bon, alors, comme souvent, alors ça, c'est le vieux philosophe qui parle, il y a quelques écarts entre les textes et la réalité. Alors, on sait que les rivalités, d'abord, entre les puissances économiques dominantes, elles ont joué dans l'échec des négociations qui ont suivi la mise en place de l'Organisation mondiale du commerce. Hein. On jouait aussi le fait que les pays dits émergents, ils ne se laissent plus faire comme auparavant. Hein. On le voit non seulement à l'OMC, mais on le voit aussi dans d'autres instances internationales. Donc tout ça a conduit à une situation, si vous lisez les déclarations de temps en temps de notre Pascal Lamy National, qui est le directeur de l'Organisation mondiale du commerce, c'est un vrai enlisement, hein, qui a commencé à Seattle avec les grandes manifestations, et qui s'est poursuivi, il y a eu avec le non-aboutissement du cycle de Doha dans lequel nous sommes. Hein. Je disais tout à l'heure que le cycle de l'Uruguay avait été très long. Probablement, il va être dépassé en longueur par le cycle de Doha. Donc tout ça fait que les choses ne sont pas si simples. Alors, dans sa version de 1994, la version d'origine, l'ADPIC, cet accord, était déjà le résultat de divers compromis entre ceux qui auraient voulu un texte totalement dédié à la protection des entreprises du secteur pharmaceutique, et ceux qui, s'appuyant, comme on l'a vu, sur une tradition ancienne, hein, qui a existé dans tous les pays, mettaient l'accent sur l'intérêt général et sur la spécificité du secteur de la santé, dans l'activité économique, et les échanges commerciaux. Alors, c'est pour ça que même dans le texte d'origine, il y avait quand même, par rapport à ce que j'ai dit un peu brutalement jusqu'ici, il y avait un certain nombre comment on peut dire, de freins, hein, d'entraves, hein, au développement du libre-échange. Alors, là, il y avait par exemple le fait que il était considéré que, enfin, que l'accord, à l'origine, prévoyait des limites aux prérogatives des personnes ou des entreprises qui détiennent un brevet, par exemple pour protéger la santé publique. Ça a toujours été explicitement évoqué. Alors, un des outils, mais je suppose que d'autres en parleront plus longuement que moi, c'est le système des licences obligatoires, dont nous parlera très probablement demain l'ambassadeur de l'Équateur. Le deuxième aspect dont on reparlera aussi, c'est le fait que dans le texte de l'accord, il est prévu qu'une invention brevetée peut être utilisée sans l'autorisation du titulaire s'il s'agissait d'empêcher, c'est le texte qui le dit, les abus pouvant résulter des droits attachés au brevet. Là aussi, marge de manœuvre. Enfin, les pays en développement bénéficiaient dans le cadre de ces accords de délai pour mettre en œuvre les dispositions. Les pays les moins avancés en étaient en étant carrément dispensés. Voilà brièvement pour les textes. Mais encore une fois, il y a le texte et le reste. Et dans le reste, il y a les détails. Et on sait à quel point le diable apprécie en général les détails. Alors, les discussions, de mon point de vue, à l'OMC ne sont donc pas près d'aboutir pour la double raison déjà évoquée, la rivalité entre les pays riches qui veulent chacun défendre leur part de marché, et puis le rôle de plus en plus important des pays émergents. Alors, ce qui, de ce point de vue, a représenté un événement fondateur, en quelque sorte, hein, c'est le procès intenté, alors c'était en 1999, au gouvernement sud-africain par différentes firmes pharmaceutiques multinationales qui sont établies en Afrique du Sud, et c'est un cas d'école, et qui attaquaient une loi démocratiquement votée par le Parlement sud-africain et qui prévoyait, je pense que la diffusion du sida en Afrique du Sud, la tuberculose a joué un grand rôle, qui prévoyait justement d'avoir recours non seulement à des licences obligatoires, mais aussi à des importations parallèles. Les importations parallèles, c'est celles qui consistent à importer, par exemple en Afrique du Sud, à importer des médicaments fabriqués en dehors du système des brevets et qui sont fabriqués dans des pays comme l'Inde, qui ont les capacités pour le faire. Hein, la loi sud-africaine autorisait ces importations parallèles. Il y a eu une campagne internationale de grande vigueur, tellement vigoureuse que les compagnies transnationales ont été obligées de renoncer à leur procès. Hein. La rétorsion qui leur a été promise, et notamment par un certain nombre d'ONG internationales, c'est un boycott international d'un certain nombre de produits. Sur le marché américain, ce sont des trucs qui jouent souvent très fort. Donc, résultat, ils ont retiré leur plainte. Et la demande de l'Afrique du Sud a été reprise par l'ensemble du groupe africain à l'Organisation mondiale du commerce et a été petit à petit intégrée dans le texte de l'APIC lui-même. Enfin, c'est un processus qui est en cours, ça dure assez longtemps là-dedans. Il y a d'abord eu une décision du Conseil général qui autorisait les importations parallèles. Et puis aujourd'hui, nous en sommes au stade où, vous savez, un accord international, il est d'abord signé par les pays et ensuite il faut qu'un certain nombre de pays le ratifient pour qu'il entre en vigueur. C'est à ce stade-là qu'on en est aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est positif, hein? Je sens déjà que ça ronchonne là à côté de moi, donc j'imagine qu'il y aura d'autres opinions, mais on en discutera. Hein, en tout cas, c'est d'ailleurs les. Alors, que retenir de tout ça? Donc, l'idée que les médicaments relèvent des mêmes règles pour leur production et leur commercialisation que les marchandises ordinaires, c'est une idée relativement nouvelle qui malheureusement a été imposée, qui est passée dans les textes, hein, puisque même dans les textes français, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. En même temps,
c'est pour ça qu'il y a enchaîné.
ah oui, en même temps,
C'est une
on a
dernière minute,
vu,
c'est pas.
on a vu avec le scandale récent du vaccin contre la grippe ce que cette connivence entre les, ce que la connivence entre les gouvernements et les grands laboratoires pouvait donner. Alors, ça montre au moins que l'histoire n'est pas terminée, mais tout de même qu'il est possible de desserrer l'étau grâce à une action qui, cette fois-ci, a été une action internationale, mais qui reste à poursuivre, parce que je suis d'accord avec Garance là-dessus, rien n'est acquis, puisque les règles générales de l'OMC restent aujourd'hui en vigueur.
Ah oui, d'accord.